Alors aujourd'hui, le but, c'est le dernier chapitre, chapitre 5 de la lettre du pape. Alors c'est un chapitre plus court, hein. C'est presque la conclusion, on pourrait dire. Donc c'est le titre du chapitre, c'est « Évangélisateur avec esprit ». Alors, vous connaissez, il y a eu des documents de Paul VI sur l'évangélisation, qui s'appelle Evangelii Nuntiandi, de Jean-Paul II, c'était Redemptoris Missio. Donc ça, c'était. Et à chaque fois, le dernier chapitre, c'est. Alors, le dernier chapitre de Evangelii Nuntiandi, c'est l'esprit de l'évangélisateur, de l'évangélisation. Et puis. Oui, c'est ça. Et celui de Redemptoris Missio, c'est spiritualité missionnaire. Spiritualité, donc c'est esprit aussi. Alors, donc, se laisser conduire par l'esprit, etc. Donc, alors, je voulais commencer par peut-être une note sur l'Esprit Saint. Parce qu'il y a un lien intime entre l'évangélisation et l'Esprit Saint. C'est pas juste pour. Comme ça, qui voulait mettre évangélisateur avec l'esprit, mais on le voit notamment parce que l'évangélisation a commencé notamment avec la Pentecôte. Hein, enfin, j'enfonce sans doute des portes ouvertes, mais bon, ça fait. Dans Evangelii Nuntiandi, le pape Paul VI en parlait bien. Il n'y aura jamais d'évangélisation possible sans l'action de l'Esprit Saint. Là, il se reporte déjà à la mission de Jésus. Sur Jésus de Nazareth, l'Esprit descend au moment du baptême, lorsque la voix du Père, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur », manifeste de façon sensible son élection et sa mission. C'est conduit par l'Esprit qu'il vit au désert le combat. C'est avec la puissance de l'Esprit qu'il revient en Galilée. Et à ce moment-là, Jésus commence sa mission en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Donc, un lien très, très étroit, je ne vais pas tout développer, entre l'évangélisation et l'Esprit Saint, qui fait qu'aucune évangélisation n'est possible sans l'Esprit Saint. Ou ce que dit encore le pape François, alors c'est un peu différent, on verra qu'une différence dans la manière d'aborder les choses entre le pape François et le pape Paul VI et le pape Jean-Paul II, c'est qu'il s'attarde davantage aux motivations, le pape François. Qu'est-ce qui peut nous motiver à évangéliser? Il dit au numéro 261, qu'on verra tout à l'heure, « Aucune motivation ne sera suffisante s'il ne brûle dans les cœurs le feu de l'Esprit. » L'Esprit Saint est l'âme de l'Église évangélisatrice. Alors, c'est intéressant de voir un peu comment agit l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, on ne le voit pas. On ne le voit pas, mais son action, elle est bien réelle. Raniero Cantalamessa, vous voyez qui c'est, le prédicateur de la maison pontificale, dans une prédication du carême en 2009, disait montrer que l'Esprit Saint n'agissait pas par contrainte, mais par attraction, par désir. Alors, il rappelait, entre autres, justement que l'Esprit Saint, il rappelait un texte de Saint Augustin. Disait, mais il y a deux manières en quelque sorte de conduire quelqu'un. Il y a soit par attraction, soit par obligation. Et alors, avec la Pentecôte, c'est la nouvelle loi de l'esprit, une nouvelle loi qui nous est donnée, mais qui n'opère pas par contrainte, mais plutôt par attraction. Et saint Augustin prenait l'image d'un enfant. Il disait, si tu lui tends des noix, Alors là, aujourd'hui, ce ne serait peut-être pas des noix, ce serait d'autres choses. Mais voilà, il va venir parce qu'il est attiré. Hein? Mais alors, du coup, c'est un autre mode d'action que celui de la loi. C'est peut-être un peu brouillon ce que je vous dis, mais le jour de la Pentecôte, vous savez, la Pentecôte, ça existait déjà pour les Juifs. Mais qu'est-ce que ça représentait pour les Juifs? Pour les Juifs, alors ça représentait deux choses. Ça pouvait être la fête des moissons, mais ça pouvait être aussi la fête du don de la loi. C'était la fête du don de la loi. On se rappelait du don de la loi sur le Sinaï. Alors c'est pour ça que Raniero Kantala Mesa développe un peu cet aspect où l'Esprit Saint, c'est la loi nouvelle qui nous est donnée, mais qui opère différemment de la loi ancienne, où la loi ancienne nous disait ce qu'il fallait faire, hein, nous donnait des obligations, et puis qui était bonne en tant que telle, mais tandis que l'Esprit Saint, il nous donne le goût des choses. Et je trouve que c'est intéressant, on reviendra à l'évangélisation, bien sûr, après, mais de voir comment agit l'Esprit Saint. Il y a un texte que vous connaissez peut-être, c'est du métropolite Ignatios de Latakié. Voilà ce qu'il dit, mais qui exprime bien l'action de l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, Dieu est loin, le Christ reste dans le passé, l'Évangile est une lettre morte, l'Église une simple organisation, l'autorité une domination, la mission une propagande, le culte une évocation et l'agir chrétien une morale d'esclave. Mais en lui, en l'Esprit Saint, le cosmos est soulevé et gémit dans l'enfantement du royaume. Le Christ ressuscité est là. L'Évangile est puissance de vie. L'Église signifie la communion trinitaire. L'autorité est un service libérateur. La mission est une Pentecôte. La liturgie est mémorial et anticipation. L'agir humain est déifié. Ouais. Donc la différence avec ou sans l'Esprit Saint. Ou alors, exprimé d'une autre manière, c'est le curé d'Ars, qui exprime bien justement l'action de l'Esprit Saint. Je vous donne quelques citations. Un chrétien qui est conduit par l'Esprit Saint n'a pas de peine à laisser les biens de ce monde pour courir après les biens du ciel. Il sait faire la différence. Et on voit bien que c'est pas par obligation d'abord, comme contraint et forcé, c'est parce qu'on voit que les biens du ciel valent la peine. Ou encore une autre citation un peu difficile peut-être, du curé d'Ars. Les saints avaient le Saint-Esprit en eux et la présence de Dieu. Ils désiraient les croix. Les croix. Et quand ils en avaient, ce n'étaient pas des croix. Le Saint-Esprit les leur adoucissait, elles étaient légères. Que l'on est heureux sur la terre quand on a l'Esprit Saint. Il n'y a plus de croix, les croix fondent. Voyez les saints, peints, ne s'est plaint des croix, au contraire, il les désirait. Alors peut-être qu'il nous manque un peu d'Esprit Saint. Quand on est animé du Saint-Esprit, on goûte Dieu, on l'aime. Les sacrifices ne coûtent rien. Les âmes qui possèdent le Saint-Esprit sont courageuses, rien ne leur coûte. Quand on a le Saint-Esprit, le cœur se dilate dans l'amour divin. Le poisson ne se plaint jamais d'avoir trop d'eau. C'est les belles images du curé d'Ars. Une âme qui a le Saint-Esprit ne s'ennuie jamais en présence de Dieu. Son cœur transpire d'amour. Une âme qui possède le Saint-Esprit goûte une saveur dans la prière. Le temps est toujours trop court. Elle ne perd jamais la présence de Dieu, son cœur. Devant ce bon sauveur est comme le raisin sous le pressoir. Ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit éprouvent toutes sortes de bonheurs au-dedans d'eux-mêmes, tandis que les mauvais chrétiens se roulent sur les épines et les cailloux. Et dernière citation du curé d'Ars, il s'agit de savoir qui nous conduit. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, nous avons beau faire, il n'y a point de substance ni de saveur dans tout ce que nous faisons. Si c'est le Saint-Esprit, il y a une tout ça moelleuse, c'est à mourir de plaisir. Alors j'aime bien parce que cette douceur moelleuse, il parle souvent de goûter, de saveur, voilà. Pour nous dire que voilà, c'est pas la loi du Saint-Esprit, voilà, elle nous attire parce que ça nous semble désirable. C'est pas la même chose que faire les choses contraint et forcé. Alors après, il y a pas mal d'images qui ont été prises justement pour parler de l'action de l'Esprit Saint. On parle de l'Esprit Saint qui est comme l'âme dans le corps. À l'âme, on la voit pas. Mais en même temps, un corps sans âme, c'est un corps inanimé, c'est un corps mort. Mais nous, au niveau spirituel, on est mort aussi sans le Saint-Esprit. Voilà, le Saint-Esprit, c'est ce qui nous donne une âme, ce qui donne une âme à nos actions. Et puis, au-delà de la vie, c'est aussi les actions que ça nous donne de poser. Parce que quand on est animé, bon, on peut marcher, voilà, normalement, sauf si on est malade. Et du coup, on peut porter des fruits du Saint-Esprit, mais l'essentiel, c'est d'abord qu'il nous donne la vie, et puis après, il y a des fruits. Et puis... Ou une autre image aussi pour parler de l'Esprit-Saint, c'est que les auteurs spirituels emploient souvent, c'est les voiles de la barque. L'Esprit-Saint, c'est le souffle, mais justement, nous, il y a deux manières de vouloir mener notre vie, soit avec les rames, alors... quand même, soit, alors s'il y a un effort à faire, il faut hisser la voile, il faut la diriger dans la bonne direction quand même, mais après c'est l'Esprit Saint qui fait tout. Mais bon, il y a quand même un effort à faire, mais c'est pas le même effort, et voilà. Et alors c'est la conduite, c'est ça, se laisser conduire par l'Esprit Saint. Voilà, alors c'était quelques éléments que je voulais vous dire pour... à propos de l'Esprit Saint, parce que c'est très présent. Le pape en reparle un petit peu dans un paragraphe un peu plus loin de l'action de l'Esprit Saint, mais c'est vraiment. Il en parle au numéro 280. Au numéro 280, il en parle un petit peu encore. Mais voilà, le. C'est pour ça qu'on a tant besoin de prier l'Esprit Saint, pas seulement le prier, mais essayer de se rendre disponible à son action pour pouvoir évangéliser. Voilà. Donc ça, c'était un peu le pape a des belles phrases aussi au numéro 261. Quand on dit que quelque chose a un esprit, cela désigne habituellement les mobiles intérieurs qui poussent, motivent, encouragent et donnent sens à l'action personnelle et communautaire. Et ensuite, comme je voudrais trouver les paroles pour encourager une période évangélisatrice plus fervente, joyeuse, généreuse, audacieuse, pleine d'amour profond et de vie contagieuse. Mais je sais qu'aucune motivation ne sera suffisante si ne brûle dans les cœurs le feu de l'esprit. Et encore une fois, on le voit bien dans la vie des apôtres, hein, c'est à la Pentecôte vraiment que commence l'évangélisation. On voit l'avant et l'après. Il y a un mot qui revient souvent dans le Nouveau Testament, dans les Actes des apôtres, c'est la parésia. C'est l'audace, le courage pour annoncer la parole. Ce qu'ils n'avaient pas du tout avant. Donc voilà, ça c'est un fruit de l'esprit. Alors, j'avance un tout petit peu. Donc, on va avancer au numéro 262. Dans le numéro 262, le pape prie beaucoup de prier et travailler, prier et agir. À la fois la prière et à la fois l'action. Il y a cette phrase de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. faut toujours prier comme si l'action était inutile et agir comme si la prière était insuffisante. Mais alors, le pape dit, encourage beaucoup à faire les deux, là. Il ne faut pas vous réfugier dans la prière en vous disant, bon, de toute façon, on est impuissant. Et puis, il ne faut pas non plus vous tomber dans l'activisme en oubliant la prière. Parce que... Donc, toujours lier les deux. Et je pense que c'est toujours quelque chose de difficile. Les gens ne comprennent pas toujours qu'on s'adresse à Dieu dans la prière, enfin au moins les incroyants. Ils disent, mais plutôt que d'aller vous mettre à genoux, tout ça, ben, retrousser les manches pour faire quelque chose. Mais en même temps, c'est la prière aussi qui oriente déjà notre action. Je pense que dans la prière, on voit mieux ce qu'il faut faire. Et puis ça nous donne aussi la force pour le faire. Dieu nous soutient aussi dans notre action. Ah, une petite citation de Peggy. Prier pour obtenir la victoire et refuser de se battre est preuve de mauvaise éducation. J'aime bien cette petite... Prier pour obtenir la victoire et refuser de se battre est preuve de mauvaise éducation. Peut-être que vous vous rappelez à ce sujet-là un texte de l'Ancien Testament, c'est la bataille d'abord et après la victoire, mais d'abord la bataille contre les Amalécites. C'est avec Moïse. Oui. Exactement. Donc, mais alors, on voit bien qu'ils font les deux. Il y a Moïse qui reste sur la montagne pour prier, et puis Josué qui est dans la plaine pour combattre. Mais il y a vraiment les deux. Alors, c'est ce que veut nous dire le pape, quelque part. Il faut, et la prière et l'action, il ne faut pas ou l'une ou l'autre, mais c'est les deux. Alors après, chacun selon sa vocation. Mais on remarque même Thérèse de Lisieux, qui est patronne des missions, elle ne faisait pas rien, ne serait-ce que des sacrifices qu'elle faisait pour soutenir le courage des missionnaires quand elle ramassait une épingle, mais par amour. Et voilà. C'était pas uniquement une prière désincarnée. Elle offrait ses souffrances aussi pour ça. Voilà. Une citation de l'abbé Grosjean qui avait traité ce thème aussi. La prière appelle l'action. La prière se conjugue à l'action. La prière nourrit l'action et lui donne sa fécondité profonde. Pourquoi ? Parce que la prière nous fait partager les sentiments du Christ. La prière nous rappelle aussi que tout est entre les mains de Dieu. Ça nous remet à notre place aussi. Et la prière nous donne l'assurance que nos engagements remis entre les mains de Dieu seront féconds d'une manière ou d'une autre, au-delà des succès ou des échecs apparents, mais il y aura une certaine fécondité. Donc ça, c'est sur le numéro 262. Et après, le numéro 263, il nous invite à prendre exemple sur les saints, en disant, c'était pas plus facile à leur époque qu'à la nôtre. Vous connaissez sans doute ces textes qu'on cite quelquefois à propos de la jeunesse, en disant, les jeunes autrefois, c'est plus ce que c'était, etc. Alors, je vais vous donner quatre citations, vous allez me dire de quand elles datent. La première, c'est: notre jeunesse est mal élevée. Elle se moque de l'autorité et n'a aucune espèce de respect pour les anciens. Nos enfants d'aujourd'hui ne se lèvent pas quand un vieillard entre dans une pièce. Ils répondent à leurs parents et bavardent au lieu de travailler. Ils sont tout simplement mauvais. C'est Socrate. Donc Socrate au 5e siècle avant Jésus. Bon. Une deuxième citation.
C'est désespérant parce que ça veut dire que le monde ne change pas.
Mais il n'empire pas. S'il y a 2500 ans, déjà on disait ça. Et alors, autre citation. Je n'ai aucun espoir pour l'avenir de notre pays. Si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement demain, parce que cette jeunesse est insupportable, sans retenue, simplement terrible. Alors là, c'est une citation d'Hésiode en 720 avant Jésus-Christ. Autre citation. Notre monde a atteint un stade critique. Les enfants n'écoutent plus leurs parents, la fin du monde ne peut pas être loin. Alors ça, c'est un prêtre égyptien, en l'an, pas un prêtre catholique, hein, puisque c'est en 1000 avant Jésus-Christ. Dernière citation. Cette jeunesse est pourrie depuis le fond du cœur. Les jeunes gens sont malfaisants et paresseux. Ils ne seront jamais comme la jeunesse d'autrefois. Ceux d'aujourd'hui ne seront pas capables de maintenir notre culture. Alors ça, ça a été découvert sur une poterie d'argile, ça a 3000 ans avant Jésus. Non, 3000 ans. Voilà. Donc, alors, tout ça, je me suis un peu écarté, mais c'était pour dire, là aussi, le pape dit, il est salutaire de se souvenir des premiers chrétiens et de tant de frères au cours de l'histoire qui furent remplis de joie et pleins de courage, infatigables dans l'annonce. Est capable d'une grande résistance active. Il y en a qui se consolent en disant qu'aujourd'hui c'est plus difficile. Cependant, nous devons reconnaître que les circonstances de l'Empire romain n'étaient pas favorables à l'annonce de l'Évangile, ni à la lutte pour la justice, ni à la défense de la dignité humaine. Et je trouve que c'est quand on voit l'Empire romain. Alors après, ça dépend des lieux aussi dans le monde. C'est quand même plus facile en France qu'en un certain nombre d'autres pays, mais voilà. Et du coup, pas se démobiliser en disant c'est trop difficile, on a moins de prêtres, sinon on baisse les bras. Voilà, c'est le monde qui nous est donné et Dieu nous donne la grâce pour aujourd'hui. Il ne nous donne pas la grâce pour hier. Alors il y a des choses qui seront peut-être plus difficiles et d'autres qui seront peut-être plus faciles, je ne sais pas. Quand on va dans la rue, ben finalement, les jeunes, c'est les plus réceptifs. Ils sont beaucoup plus réceptifs que les gens qui ont 60 ans. Alors, ce n'est pas pour autant qu'ils vont se convertir forcément tous du jour au lendemain. Hein, mais ceci dit, ils ne sont pas fermés. Tandis qu'il y a des gens plus âgés qui sont beaucoup plus fermés. Bon. Voilà. Alors, donc, prendre exemple sur les saints. C'est vrai qu'on est impressionné quelquefois de voir ce qu'ont pu faire les saints avec les moyens qui étaient les leurs à leur époque. Quand on voit des saints qui sont morts assez jeunes quand même. Je ne me rappelle plus Saint François Xavier en quelle année il est mort, mais il n'est pas mort très vieux quand même. Et pourtant,